Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Dans cet épisode spécial crowdfunding, je reçois Fanny, qui est très engagée dans la réduction de son empreinte carbone et sensibilise les gens au zéro déchet grâce à ses conférences. Elle nous raconte son changement de vie radical pour être en accord avec ses valeurs et son nouveau projet, le Slow Tiny Tour. Je laisse Fanny vous en parler et si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver plus de détails de la campagne sur Ulule en description. Bonne écoute! Bonjour Fanny!
Salut!
Fanny, tu as un parcours très riche et atypique d'entrepreneuse qui t'a mené à devenir mannequin à Hong Kong, à lancer ton site de e-commerce, puis à devenir conférencière. Il y a un an, tu es revenue en France pour accorder tes valeurs écologiques à ton mode de vie et tu lances aujourd'hui le Slow Tiny Tour pour sensibiliser au zéro déchet et à l'habitat léger en tiny house. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et nous expliquer comment tu t'es lancée dans cette aventure ?
Eh bien, c'est très simple. En fait, c'était lors de mon expatriation à Hong Kong, où j'ai vécu là-bas pendant 8 ans, où j'ai eu ce déclic un peu écologique. Et du coup, c'est ça qui m'a fait revenir vivre en France et continuer mon métier de conférencière.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais à Hong Kong ? Comment est-ce que tu es partie à Hong Kong ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 années ? Et comment s'est déroulée cette prise de conscience ?
Oui, alors en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais des sites internet en France à la suite de mes études. Et un jour, j'ai eu dans la même semaine deux opportunités qui se sont offertes à moi. Si tu veux, il y a eu d'abord un CDI dans une agence web, parce que je développais des sites internet. Et la seconde opportunité, c'était un CDD de 3 mois en tant que mannequin à Hong Kong. Donc c'est vrai que j'ai énormément hésité. J'ai mis genre 6 mois à prendre ma décision. Et au final, après en avoir parlé autour de moi longuement, je me suis dit que la meilleure décision, ça serait évidemment de partir et d'essayer cette expatriation-là, même si j'avais jamais fait mannequin auparavant. Et du coup, voilà, je me suis lancée, je suis allée là-bas alors que je connaissais pas du tout l'anglais et que je savais même pas situer Hong Kong sur une carte, donc c'était assez drôle. Et finalement, ça s'est bien fait. Et finalement, j'y suis restée 8 ans avec un parcours, comme tu l'as dit, assez divers, puisque j'ai changé d'activité à peu près tous les 3 ans. Donc voilà. Et ensuite, une fois que je suis arrivée sur place, j'ai monté une agence web où j'ai créé des sites internet pour des entreprises sur place, en parallèle du mannequinat. Et au bout de 3 ans, j'ai arrêté ça, cette activité-là, parce que j'ai eu un déclic écologique. Donc, j'ai vu notamment la jarre de Bea Johnson. Elle, c'est la pionnière du zéro déchet, tu sais. Donc, elle met en gros tous ses déchets dans une jarre, dans un genre de pot de confiture bonne maman. Et ça, c'est ses déchets annuels à l'année, avec toute sa famille, son mari, ses 2 enfants et leur chien. Et donc, du coup, ce déclic-là, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer ce challenge-là, parce que je suis très challenge. Et je me suis dit, je vais faire pareil, parce que c'est pour la bonne cause, pour avoir une meilleure planète, un meilleur avenir, et puis pour faire des économies en plus. Donc, pour moi, ça touchait un peu tous les aspects importants de ma vie. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a fait arrêter, du coup, de nouveau, mon job de web développeur. Et c'est ça qui m'a fait... faire un site e-commerce de produits zéro déchet, parce que sur place, il n'y en avait pas. Et en fait, après 2 ans où c'était une superbe aventure, j'ai vendu tous ces produits zéro déchet sur place à Hong Kong. Et je me suis dit en fait que j'en avais marre vraiment de devoir vendre tous ces produits pour pouvoir moi vivre de mon côté, de mon activité, quoi. Si tu veux, je trouvais qu'il y avait un décalage assez flagrant. Et du coup, c'est cette prise de conscience-là qui m'a fait à nouveau changer et qui m'a fait me concentrer vraiment sur l'éducation et sur le fait de passer le message qu'il fallait arrêter la surconsommation. Donc du coup, voilà un peu le process. Après, j'étais conférencière à plein temps Et je faisais plein de conférences donc, sur le zéro déchet, sur le fait qu'il fallait arrêter de surconsommer, qu'il fallait réduire son empreinte carbone, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, mon empreinte carbone, elle était quand même assez élevée avec tous les allers-retours en avion et la nourriture que je consommais sur place, notamment. Et pour tout plein de raisons, j'ai décidé il y a à peu près un an de rentrer en France pour justement réduire mon empreinte carbone et continuer mon métier de conférencière ici. Voilà.
Alors, avant qu'on rentre dans le sujet de ton retour en France, de ce que tu fais maintenant, oui. Juste pour bien comprendre un petit peu plus ton parcours et d'où tu viens, donc tu as fait quoi comme études? Comment est-ce que tu es devenue web développeur? Ça vient d'où?
C'était une passion, en fait, tout simplement, que j'avais quand j'étais petite. J'ai commencé à développer des sites internet à 15 ans. Où je faisais des sites, tu vois, j'avais fait mon propre blog que j'avais développé moi-même, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait mes études là-dedans. Donc j'ai fait un BTS informatique de gestion et ensuite une année de licence, donc un bac plus 3 en alternance sur Paris, toujours dans ce domaine-là. Et après, finalement, après ça, je me suis mis à mon compte et je suis devenue auto-entrepreneur. Pour faire vivre de cette activité-là, quoi. Mais malheureusement, en France, c'était pas trop ça.
Et on était en quelle année à ce moment-là?
C'était en 2009, 2010, quelque chose comme ça.
D'accord. Et c'est ça qui t'a poussé à t'expatrier? C'est que c'était difficile de vivre de cette activité de web développeur?
Non, du tout. J'essayais vraiment de vivre de cette activité-là. J'ai essayé pendant un an. Et ensuite, non, tout simplement, j'ai eu cette opportunité-là, soit ce CDI, soit cette opportunité de devenir mannequin et de faire un CDD de 3 mois à l'autre bout du monde. Et finalement, je me suis dit, allez, je me lance à l'eau. Ces opportunités-là, si tu veux, on les a pas deux fois dans une vie, quoi. Donc, je me suis dit que ça allait être assez impactant. Et c'est pour ça que je suis partie là-bas et que je me suis lancée, quoi. Et j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai réouvert une agence web au final sur place et cette fois-ci, ça a marché, donc c'était top.
Et comment ça s'est passé, ton arrivée à Hong Kong, le mannequinat là-bas, enfin, à quoi ça ressemble, enfin, j'imagine que ça devait être un peu spécial, non? Ou étranger, oui. En tout cas, par rapport à là d'où tu venais.
Le truc, c'est que j'avais jamais fait ce métier-là avant, donc en effet, pour moi, c'était tout nouveau. En plus de ça, je parlais pas du tout anglais, donc c'est vrai que c'était un sacré challenge pour moi. ça s'est bien passé. En gros, il n'était pas question de faire des photos ou des défilés, mais c'était surtout d'essayer les vêtements. Donc c'est un métier qui existait, mais dont j'avais vraiment pas du tout conscience. Et du coup, j'ai travaillé avec des grandes marques comme H&M, Naf, plein de marques françaises, européennes, voire internationales, Victoria's Secret aussi. Et c'était un nouveau monde qui s'offrait à moi, en plus de l'entrepreneuriat à côté.
Et du coup, à côté de ce métier-là, tu t'es aussi lancée en entrepreneur, enfin en entrepreneuse, pour faire du web développement. Et il y avait un besoin particulier. Comment ça s'est passé là aussi?
Moi, à la base, le web développement, c'était vraiment ma passion, quoi. Le mannequinat, c'était pas du tout une passion, c'était juste un moyen pour moi de gagner ma vie. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a fait aussi partir à Hong Kong. Donc, j'en étais très, très heureuse. Mais au final, je voulais vraiment continuer mon travail et faire vraiment développer des sites internet. Donc, il n'y avait pas de besoin forcément sur place, mais j'y suis allée et quand j'ai vu que Hong Kong c'était vraiment la ville où il fallait créer son business et où tout marchait pour les entrepreneurs, je me suis dit je vais retenter ma chance et je vais essayer de nouveau de vivre de ma passion, quoi. Et cette fois-ci par contre ça a marché parce que la communauté française à Hong Kong est très grande et du coup de fil en aiguille j'ai fait un site internet pour un restaurant français, puis après pour leur second, puis après finalement pour tout leur restaurant, puis au final j'ai réussi à vivre de cette activité là et du mannequinat pendant 3 ans. Donc c'est vrai que c'était génial, c'est cool de pouvoir vivre de sa passion dans la ville la plus chère du monde avec des salaires qui sont pas du tout réguliers.
Ah oui, ça j'imagine bien. Et alors, en fait, j'ai juste un petit peu de mal à comprendre là comment est-ce que ça s'est passé, ta révélation un peu pour le zéro déchet et on va dire la compréhension de l'urgence écologique. Donc, tu disais, il y a cette histoire de jar. Alors, je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de cette dame, parce que je n'avais jamais entendu parler avant.
Oui, c'est Bea Johnson. C'est la pionnière du zéro déchet.
Et en fait, tu as entendu parler de Bea Johnson et là, tu as eu un déclic directement ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai vu un article sur Internet qui parlait d'elle, sur Facebook, je crois, et qui disait « Cette femme réussit à mettre tous ses déchets de l'année dans un petit pot de confiture. » Et je voyais encore cette photo-là. J'étais là « Non, mais ça doit être le Gorafi ou un article fake news, tu vois. C'est pas possible. Comment elle peut faire de mettre tous ses déchets annuels dans un petit pot de confiture ?» Je me suis dit « Non, mais c'est... » Et par curiosité, en fait, j'ai lu l'article, et puis après, j'ai lu son livre, et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est ultra simple, il y a plein de choses qui nous permettent de, tout simplement, de choisir dans son quotidien des produits réutilisables et non jetables, et du coup, qui nous font des économies pour nous, mais aussi après pour la planète. Donc du coup, tout simplement, j'ai switché du jour au lendemain, quoi.
Et c'est quelque chose qui, toi, t'interpellait déjà avant, les déchets, ou pas du tout ?
Ben, pas du tout. En fait, à la base, je pensais que je faisais déjà mon maximum pour la planète, si tu veux, parce que je triais mes déchets, je prenais des douches au lieu de prendre des bains. Voilà, c'était pour moi des choses assez basiques, quoi. Mais je pensais que à partir du moment où tu triais tes déchets, tu faisais déjà ton maximum, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a tellement une méthodologie en fait à appliquer dans son quotidien qui nous permet de réduire, mais drastiquement, nos déchets que je ne connaissais pas, quoi. Donc en fait, moi, c'est ce challenge-là qui m'a fait vouloir réduire mes déchets sur le long terme, quoi.
Et là, tu t'es lancé donc dans un autre projet, celui de vendre des produits zéro déchet sur Internet. Bah, comment ça t'est venu, cette idée ? Comment est-ce que ça fonctionnait ?
Eh bien, en fait, tout simplement parce que quand j'étais du coup sur Hong Kong et que j'ai eu ce déclic écologique, que j'ai lu ce livre, j'ai cherché, moi, toutes ces alternatives, donc des shampoings secs. Je vais exagérer en disant que je cherchais des pailles en inox, mais tu vois, enfin, plein de produits réutilisables, des produits en vrac. Voilà, tout ça. Et malheureusement, en fait, il y en avait que très très peu sur Hong Kong. Et vu que j'avais ce background où j'étais web développeuse avant, je me suis dit, tiens, je vais lier mon ancienne passion de créer des sites internet et cette nouvelle passion pour réduire les déchets et sensibiliser les gens en créant ce site-là qui permettrait de vendre tous ces produits ici, quoi. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Voilà.
Parce que tu commençais déjà à sensibiliser les gens une fois que toi, tu avais eu conscience de cette jarre et du zéro déchet. Tu étais dans une optique de sensibilisation autour de toi ?
J'avais pas pour objectif de sensibiliser les gens, mais tu sais, quand t'en parles et que tu parles avec un engouement, une passion, et que tu dis à tes amis « punaise, mais t'imagines tout ce qu'on sort dans notre poubelle » et qu'après il y a ton ami qui te dit « ah bah tiens, j'ai pensé à toi et à notre conversation il y a quelques jours, quand j'ai sorti ma poubelle aujourd'hui, je me suis dit qu'en effet, et tu vois, et de fil en aiguille, en fait, c'est ça qui s'est passé, quoi. Donc je me suis dit « ok, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus ». Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tous ces produits sur place. Et donc, j'ai lié, encore une fois, ma passion et mon expertise, si tu veux, pour répondre à un besoin. Je me suis dit que si moi, j'avais ce besoin-là de trouver ce genre de produits, je ne devais pas être la seule Française ou la seule personne ou expat à Hong Kong à la recherche de ce genre de produits. Et au final, j'ai eu raison, parce que quand on a lancé la soirée de lancement dans un bar à Hong Kong, on l'a fait, et au final, il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues en l'espace de 2 heures, et on ne s'y attendait vraiment pas, quoi. Donc ça voulait dire vraiment qu'il y avait un engouement pour ça, quoi.
Ok, ouais, il y avait vraiment un besoin, mais non identifié, et puis avec zéro solution qui existait sur place.
C'est ça, ou très très peu, ouais. En fait, il y avait un magasin en vrac à l'époque, et à l'heure aujourd'hui où je te parle, t'en as au moins une dizaine, quoi. Donc c'est vrai que ça a bien évolué depuis, ouais.
Et donc ça, tu l'as fait pendant combien de temps ?
Cette activité-là de site internet e-commerce, je l'ai fait pendant 2 ans et demi.
Ok. Et au final, après 2 ans et demi, tu t'es dit c'est pas assez, ou il y a quelque chose qui en fait tourne pas assez bien dans le modèle pour toi ?
C'est ça. En fait, si tu veux, j'avais eu ce déclic lorsque j'étais sur un marché de Noël. Dans un hôtel de luxe, et puis là il y a une dame qui est passée, une de mes clientes, qui a dit j'ai déjà 4 mugs en bambou chez moi qui sont réutilisables, mais je vais acheter le vôtre parce que ce design là il est très très beau. Et à ce moment là en fait, dans ma tête, ça m'a fait, mais attends, c'est pas possible. Comment la femme, elle peut avoir 4 mugs réutilisables chez elle et elle veut quand même en acheter un cinquième, quoi. Et du coup, en fait, c'est notamment cette réflexion-là où je me suis dit, ben tiens, les gens, en fait, ils continuent à surconsommer, ils continuent à acheter des pailles par centaines, alors que je suis sûre qu'au fond, ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, quoi. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation et sur la compréhension du message qu'il y avait derrière la vente de ces produits.
Et là, tu t'es... Enfin, transformée en conférencière.
Ouais, on peut dire ça comme ça. En gros, si tu veux, j'avais pendant que je vendais ces produits-là, pendant que j'étais fondatrice de ce site e-commerce, il y avait déjà quelques entreprises qui m'avaient contactée pour que je puisse aller chez eux et influencer leurs collaborateurs, enfin pardon, encourager leurs collaborateurs à réduire leurs déchets. Donc en fait, j'en avais déjà fait quelques-unes de conférences, et puis finalement, petit à petit, j'ai fait que ça, au final, parce que je voyais qu'il y avait une plus grosse demande de ce côté-là, et qu'il y avait beaucoup plus d'impact, en fait, à encourager les gens à moins surconsommer, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de devenir conférencière à plein temps, quoi.
Eh, c'est marrant, et ces demandes, elles émanaient de la communauté française, ou de la communauté expat, ou c'était vraiment... un petit peu partout, enfin, comment c'est venu ?
C'était plutôt les sociétés françaises, oui. Surtout ben, les banques, aussi les hôtels, voilà. Et ouais, parce qu'à l'époque, j'avais fait, il me semble, ma première conférence, ben, c'était pour l'hôtel Le Mandarin Oriental. Après, il y a eu Carrefour, après, il y a eu Adidas. Enfin, voilà, il y a eu plein de compagnie, mais à la base, oui, c'était surtout des Français qui me contactaient pour ça.
Je te pose la question parce que moi, quand j'étais au Vietnam, je faisais de la sensibilisation avec la fresque du climat, et c'est vrai que les demandes émanaient aussi surtout de tout ce qui était communauté française ou expat, et que c'était vraiment dans un cercle en fait assez restreint que je pouvais avoir de l'influence.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une demande des expatriés français sur place pour sensibiliser et pour se mettre à l'action. Mais après, ce qui est génial, c'est que du coup, je ne sais pas pour le Vietnam, mais pour moi en tout cas à Hong Kong, dès qu'il y avait des opérations qui étaient lancées, par exemple, par des entreprises pour faire des nettoyages de plage ou autre, il y avait à chaque fois les locaux aussi qui venaient parce qu'eux aussi se sentaient concernés par ça, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Nous, à la soirée de lancement de notre site e-commerce, il y avait 50% d'expats, 50% de locaux. Donc au final, en fait, tu te rends compte que ça touche vraiment les deux parties, quoi.
Et pourquoi est-ce que tu es rentrée alors finalement ?
Au final, je suis rentrée pour réduire mon empreinte carbone à cause des allers-retours en avion, de la nourriture sur place qui était importée, la nourriture sur place qui est importée à 98%. Du coup, tout ça, en fait, pour moi, c'était un non-sens et je voulais vraiment vivre en accord avec ce que je prenais, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. Et puis, tout naturellement, après, une fois que j'étais ici, j'avais déjà cette petite idée en tête de vivre dans une tiny house pour réduire encore plus mon empreinte carbone, quoi.
Alors, avant que tu nous parles de la tiny house et du slow tiny tour, un petit peu sur le moment où tu t'es lancé, que tu as décidé à rentrer en France, comment tu t'es senti ? Ça n'a pas été trop dur par rapport à ton entourage, je veux dire, après 8 ans à Hong Kong et tout ce que tu avais fait sur place ?
Alors si, ça a été ultra dur. En fait, oui, ça n'a pas été simple. J'ai mis, je crois, 1 an et demi avant vraiment de me lancer, au moment où j'ai eu cette envie de rentrer et vraiment le moment d'acter et de rentrer et de déménager. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi et au final, une fois rentrée en France, là je t'avoue que je suis rentrée en novembre dernier, donc évidemment c'était dur, notamment question timing, quoi, avec les gilets jaunes, les grèves, le Covid, le confinement, enfin voilà, ça n'a pas été simple. C'est vrai que souvent je compare ma vie à Hong Kong où j'étais ultra active, tous les jours j'avais des choses à faire et actuellement aujourd'hui, qui est vachement plus, un mode de vie vachement plus slow. Mais c'est sûr que c'est vachement différent, mais il faut s'habituer, quoi. C'est un autre mode de vie. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je suis partie.
Et qu'est-ce qui a fait que ton mode de vie, à un moment donné, est devenu, j'allais dire insupportable, c'est pas vraiment le mot, mais que finalement, tu étais complètement déconnecté entre tes valeurs et ce que tu faisais sur place? Parce que c'est juste la nourriture et l'avion, ou c'était autre chose? T'avais envie de vivre autrement?
Ben, c'était au début l'élément déclencheur, en tout cas, c'était vraiment ça, c'était mon empreinte carbone, c'était le fait de lire de plus en plus de livres sur la transition écologique, sur l'impact de l'avion dans notre empreinte carbone. Ouais, vraiment, tout ça, ça a été l'élément déclencheur. Après, c'est vrai que je vivais une vie qui était vraiment à 100 à l'heure et c'était quelque chose qui commençait à devenir pénible parce que j'aspirais, je pense peut-être aussi avec l'âge, à plus de calme et à une vie où tu es plus en accord avec tes valeurs, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer.
D'accord, et je te pose la question parce que c'est effectivement, on en rigole aussi maintenant avec mes amis du fait que moi aussi je sois rentré du Vietnam il y a quelques mois. On me dit que c'est un peu la crise de la trentaine en fait.
Ouais, c'est ça. Après, je sais pas, ce sont, oui, c'est l'âge, mais je pense que à partir du moment où tu es expatrié, au bout de 3 ans, c'est comme dans les couples. Je pense qu'au bout de 3 ans, tu commences à te remettre en question. Au bout de 8 ans, tu te remets en question. Enfin, je pense que c'est aussi des étapes, tu vois, cruciales quand tu fais pendant longtemps la même chose. Au bout d'un moment, tu te remets en question, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. C'est ça qui
Et
m'a
tu
fait
es
rentrer,
rentré.
en tout cas.
Et quand tu es rentré, tu avais déjà un plan en tête? Enfin, qu'est-ce qu'ont dit tes amis? Qu'est-ce qu'a dit ta famille?
Alors quand je suis rentrée, non, j'avais déjà ce plan-là, cette envie de vivre dans la tiny house et de la construire. À la base, je voulais vraiment rentrer, bon, sur Paris pendant 2 ans et ensuite de construire la tiny et de faire cette tournée. Mais au final, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, ben dû à la crise, dû au confinement, voilà. Donc du coup, j'ai vraiment remis tous mes plans. Au brouillon, sur du papier. Je me rappelle que pendant un mois, j'avais des papiers partout avec vraiment ce que je voulais faire de ma vie, quels étaient les objectifs à court terme, moyen terme, tout ça. Et c'est là que je me suis dit que ça y est, j'étais prête en fait, et il fallait que je me lance de suite au fait de construire cette tiny house et de pouvoir encore plus réduire mon empreinte carbone et que c'était beaucoup plus simple à faire comme ça, quoi.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tiny house et qu'est-ce que c'est que ton projet, le slow tiny tour?
Alors, une tiny house, c'est tout simplement une toute petite maison sur remorque. Enfin, tu peux en trouver sur des fondations, mais la plupart du temps, c'est sur des remorques que ça se construit. C'est des maisons qui font à peu près 15 mètres carrés, où il y a tout dedans, hein, toilettes, salle de bain, lit, salon, etc. Et en fait, en vivant dans un logement beaucoup plus petit, du coup, ben, ton empreinte est beaucoup moins élevée, sur la planète, et c'est ça qui me plaisait vraiment dans ce mode de vie-là. En vivant en fait en tiny house, tu réduis de 50 fois ton empreinte carbone comparée à un logement classique, du fait de sa petite taille et du fait que tu peux aussi vivre en autonomie avec l'eau et l'électricité, avec par exemple des panneaux solaires, la récupération de pluie, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans cet habitat alternatif. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, quand je réfléchissais à cette envie de vivre en tiny house lors de mon retour en France, je me suis dit, mais où est-ce que je vais me poser pour continuer à faire mes conférences, quoi? Et c'est là que je me suis dit, enfin, que mon amie Marlène m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu n'utiliserais pas le fait que ce soit nomade pour ben, faire un tour de France et puis aller faire des conférences dans les différentes régions? Et c'est comme ça que l'idée du Slow Tiny Tour est née. Donc maintenant, mon objectif, c'est vraiment de continuer à sensibiliser. Donc d'abord d'autoconstruire cette micro-maison et ensuite de l'utiliser pour faire un tour de France et donner du coup des conférences pour sensibiliser au zéro déchet, à la réduction de l'empreinte carbone et aussi sensibiliser les gens et promouvoir l'habitat alternatif qu'est la tiny house. Voilà pour le projet.
Alors, avant de rentrer dans les détails aussi enfin, pourquoi la tiny house est intéressant, peut-être que tu pourras nous parler aussi des habitats légers de manière générale. Comment est-ce qu'on passe de vivre à Hong Kong à vivre en France dans une tiny house, parce que bon, vivre à Hong Kong, c'est quand même généralement un peu, enfin, je veux dire, pas le luxe, mais enfin, je veux dire, on n'est pas en manque de grand-chose, même si les espaces sont peut-être déjà un peu petits. Comment est-ce que se passe ce cheminement? Comment est-ce que te vient l'idée?
Rien que, par exemple, tu vois, à Hong Kong, je payais 2000 euros de loyer par mois pour un appartement de 25 mètres carrés où j'étais en colocation. Donc, du coup, les prix étaient vraiment exorbitants. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'être propriétaire, tu vois, lors de mon retour en France. Et c'est vrai qu'il y a un an de ça, j'étais vraiment dans un autre mode de pensée, puisque je voulais à la base acheter un appartement sur Paris et faire un crédit et m'endetter sur 30 ans. Et mes parents me disaient, mais t'es folle, Fanny, et tout. Et puis, du coup, je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. Et au final, cette idée de tiny house là, bah, tu vois, t'es propriétaire, ça te coûte 30 à 60 000 euros, donc déjà, ça te coûte vraiment pas grand chose comparé à un logement normal. Et en plus de ça, ton empreinte est moindre sur la planète. Donc pour moi, en fait, vraiment, ma mission de vie, si tu veux, maintenant, c'est vraiment de réduire mon empreinte et de montrer l'exemple et de vivre en accord avec mes valeurs. Donc c'est pour ça que pour moi, la vie à Hong Kong, bah, c'était. Tout doucement, ça devenait un peu obsolète et la vie en tiny, bah, ça m'excitait plus, quoi.
Et alors, excuse-moi, c'est une question, hein, je creuse un peu, mais comment est-ce qu'on en vient à quand même s'engager aussi profondément en vivant dans une tiny house par rapport à d'autres choses? Je veux dire, tu dis ton objectif, c'est vraiment dans la vie de réduire ton empreinte au maximum. D'où te vient en fait cette volonté ce choix un peu radical de vie, j'ai envie de dire, de vraiment aller jusqu'au bout de ta réduction
d'empreinte. Parce qu'en fait, si tu veux, je me suis vraiment rendu compte que sans la planète, sans nos océans, sans nos forêts, sans la terre qui nous donne notre nourriture, ben, grâce à tout ça, en fait, on ne peut pas vivre, tu vois. On n'aurait pas d'oxygène, on n'aurait pas de nourriture, enfin, on doit tellement à la terre et c'est vraiment quelque chose dont j'ai eu conscience vraiment dans ces deux dernières années, alors que pourtant c'est très logique, tu vois, et que tout le monde le sait, mais pourtant personne n'en prend soin. Et tout le monde continue en se disant, bah tiens, oui, non, mais moi je mange un peu bio pour ma santé, puis j'utilise des produits réutilisables, voilà, une fois tous les quatre matins. On ne peut pas en fait faire les choses à moitié, je trouve. Quand on commence à se remettre en question et à être au courant de toutes ces statistiques qui arrivent. Tu vois, quand tu commences à vraiment être au courant de tout ce qui se passe, tu peux pas te dire, bah, je vais continuer mon style de vie comme si de rien n'était. C'est être égoïste pour moi. Et donc, du coup, après, je comprends que ça soit un mode de vie qui convienne pas forcément à tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai fait le choix de vraiment... réduire mon confort, quitte à être plus en accord et à avoir une empreinte beaucoup plus faible sur la planète qui grâce à elle, je vis, quoi, tu vois. Je suis en bonne santé tous les jours grâce aux plantes, grâce tu vois, à la texture du sol, à la nourriture de mon potager. Pour moi, du coup, j'ai trouvé beaucoup plus de valeur à vivre cette vie-là que ma vie d'avant, quoi.
T'as pas l'impression d'avoir renoncé à quoi que ce soit, d'avoir perdu quelque chose?
Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vrai qu'avant, tu vois, je gagnais bien ma vie quand je vivais à l'étranger. J'avais vraiment une belle vie, tu vois, la vie que tout le monde rêve, où tu vas en vacances tous les mois dans un pays différent, où tu prends l'avion souvent pour aller sur des plages de sable rose. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très... où j'ai bien profité. Et où j'ai vraiment beaucoup appris. Mais au final, tu vois, là, il y a quelque chose qui me revient. Quand j'étais, lors de mes dernières vacances en Indonésie, il y a un an et demi de ça, on allait faire de la plongée. Et puis là, tu vas voir les coraux. Ben, rien que ça, tu vois. Tu te dis, attends, on ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, le problème, c'est que toutes nos actions au quotidien influent sur la planète. Que ce soit l'oxygène qu'on respire ou que ce soit l'état de nos océans. Donc en fait, je pense que c'est une accumulation en fait des statistiques que j'ai lues, que j'ai apprises, des choses que j'ai vues lors de mes voyages qui m'ont fait en fait petit à petit vouloir que je sois bien dans mes bottes, tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, je vois très bien et je trouve ça vraiment remarquable de pousser le mode de vie jusque-là. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et franchement, j'ai juste envie de dire bravo. Et surtout, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que pour toi, il n'y a pas de renonciation. En fait, tu n'as pas perdu quelque chose. J'imagine qu'au contraire, tu te sens plus riche dans ta vie et plus épanoui.
C'est exactement ça, oui, j'ai pas fini tout à l'heure mon développement, mais c'est vrai que la vie d'avant vs la vie que je mène maintenant, beaucoup de gens, et notamment mon frère, m'a même fait la remarque, il me dit avant quand t'étais à Hong Kong, t'étais au top, et là, bof quoi. Et donc ça m'a fait rire, parce que je lui ai dit, mais Florian, le fait que je travaille moins, le fait que je prends soin de moi, le fait que je prenne soin aussi des gens qui m'entourent, de la nature qui m'entoure, etc., et que j'ai un mode de vie plus slow, bah du coup en fait il y a plein de choses de bénéfiques à ça, tu vois. La vie c'est pas la routine quotidienne, enfin c'est ennuyant ça. Moi j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin d'être curieuse, tu vois, de toujours voir si je suis droite dans mes bottes. Et je pense que c'est grâce à toute cette expatriation, je pense, qui m'a fait prendre conscience de ça, et ça c'est pourquoi je suis revenue aujourd'hui, quoi, et je le regrette pas du tout.
Et ce travail d'introspection dont tu parles, de remise en question, c'est quelque chose que toi tu fais naturellement, ou c'est quelque chose que tu as entamé justement à partir du moment où tu as commencé à prendre conscience dans l'urgence écologique? Comment ça s'est passé?
Je pense que c'est quelque chose que je faisais déjà bien avant, dans le sens où par exemple, tu vois, quand je rentrais en France tous les 3 mois, j'étais déjà, tu vois, dans mon objectif de trier tout ce que j'avais. Je voulais jamais avoir trop de possessions, par exemple, tu vois, ça me mettait mal à l'aise, et donc du coup petit à petit, tu vois, enfin c'était vraiment quelque chose sur le long terme qui s'est fait au niveau de mon chemin vers le minimalisme, par exemple. Et pour comparer à d'autres choses, non, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est plutôt une introspection que je fais, mais tous les jours, tu vois. Moi, je dirais peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais régulièrement. Je pense que c'est important de se remettre en question et de voir toujours si on est en accord avec ce qu'on dit, ce qu'on ressent, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au schéma Ikigai, je sais pas si tu connais.
Oui, si, tout à fait.
Voilà, l'ikigai, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très représentatif, en fait, et qui me correspond beaucoup, parce que c'est vraiment se retrouver sur plein de points, sur ce que la planète a besoin, ce dont on est, nos capacités, notre expertise à faire quelque chose de bien, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime donner aux autres. Donc je pense qu'une fois que tu te retrouves dans tous ces points-là, tu peux qu'être heureux. Et c'est ça, au final, la vraie vie pour moi.
Ouais, non, et c'est très marrant, tu vois. Je pense que là, j'ai eu la chance de discuter avec un peu plus de 30 personnes depuis que j'ai lancé le podcast. Et il y a quelque chose de commun à toutes les personnes qui, à un moment donné, ont dit stop et ont décidé de s'engager pour un monde durable. C'est qu'elles ont fait effectivement ce travail d'introspection, que ce soit la recherche d'ikigai ou à travers plus une recherche de sens ou de compréhension de soi-même sur ce qui est important pour eux dans la vie. Et c'est vrai que on se rend compte que ça commence vraiment par là, en fait. Faire un pas de recul, regarder un peu la vie qu'on mène, et ensuite se poser la question de, en fait, j'ai envie de faire quoi vraiment dans ma vie, quoi.
Ouais, regarder d'un œil extérieur un peu où on en est et faire un point. Je pense que c'est ultra important de faire ça régulièrement. Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, tu vis où? Tu vis comment?
Alors, je vis au crochet de mes parents depuis 1 an. Et en attendant que je lance donc la construction de cette tiny house afin de pouvoir reprendre ma vie et de faire cette tournée, quoi. Et j'essaie de vivre de mes conférences, mais malheureusement avec la conjoncture actuelle, voilà, c'est pas trop ça.
Ouais, pas évident de faire des conférences, surtout en physique en ce moment. Je suis d'accord. Et alors, sur le Slow Tiny Tour, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être ce que tu as prévu, ce que tu as en tête? Tu veux sensibiliser quel type de public, de quelle manière?
Ben moi, c'est vraiment de sensibiliser n'importe qui, que ce soit des enfants via des ateliers ou que ce soit des adultes ou bien des gens dans des entreprises, peu importe en fait. Mais l'objectif, c'est vraiment ouais, de les sensibiliser via des conférences, via des ateliers DIY, via aussi des projections, tu vois, de documentaires devant la Tani. J'ai vraiment envie de recréer en fait ce lien humain, tu vois, entre les gens qui habitent dans ces villages ou dans ces villes, avec les acteurs qu'il y a dans leur région et qui, eux, font aussi ce qu'ils peuvent pour avoir un meilleur monde demain, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est vraiment recréer du lien humain et sensibiliser un maximum de personnes à la réduction de nos déchets, de notre empreinte carbone et de promouvoir aussi l'habitat en Tani, parce que je pense que personne, ou du moins très très peu de personnes, connaissent ce type d'habitat et il y a plein de gens, à mon avis, qui sont très curieux de découvrir tout ça.
Oui, effectivement, je ne connaissais pas du tout l'habitat en tiny house avant, il y a un an et demi. Et ça, on en avait parlé un petit peu avant. Moi, j'avais découvert ça via l'association Les Hameaux Légers, qui justement aide à s'installer en habitat alternatif. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas forcément dit avec la tiny house, enfin, tu l'as mentionné avec le prix de la tiny, et c'est quelque chose de très fort, je trouve, c'est que c'est la possibilité pour des gens qui ont des revenus plus modestes de devenir propriétaires, d'accéder à la propriété.
Tout à fait, oui, bien sûr, du fait que le prix soit très très bas, c'est vrai que ça aide beaucoup plus de personnes à être propriétaires très vite, même s'il y a des crédits de consommation que tu peux faire, ou d'autres crédits, j'ai pas les termes, mais c'est vrai que c'est une bonne chose, et en plus de ça, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais le fait que ce soit sur une remorque, ben du coup, si demain, l'un des deux conjoints a une mutation, ben t'as pas besoin de devoir vendre ta maison, d'en retrouver une, etc., tu pars vraiment avec ta maison sur les roues, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est ultra positif, je trouve.
Et avec une tiny, où est-ce qu'on peut s'installer? Où est-ce qu'on la pose? Comment est-ce qu'on la bouge?
Comment tu la bouges? Tu peux la tracter avec un véhicule qui est capable de tracter 3,5 tonnes, parce que c'est le poids à peu près maximum d'une tiny house. Et ensuite, tu peux la poser, enfin, tu peux la tracter, pardon, déjà avec des véhicules donc 4x4, avec des SUV. Dont tous les écologistes haïssent en ce moment. Donc je sais que c'est pas du tout écologique, mais encore une fois, la Tani VS le van par exemple, qui est un peu similaire du fait qu'on peut bouger souvent avec, la Tani, tu vas la bouger beaucoup moins souvent, tu vois. Donc du coup, en fait, que tu utilises... Si tu utilises même un véhicule qui pollue pour tracter ta tiny, au final, ton empreinte carbone au niveau du transport, ça sera quand même moindre. Parce que souvent, les gens qui vivent en tiny, vivent, tu sais, ils travaillent de chez eux. Donc, du coup, ils n'ont pas tous les allers-retours au travail, etc. Et puis, tu ne bouges pas tous les 4 matins avec ta tiny sur le dos. Donc, ça, c'est
plutôt... Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est plutôt un avantage, ouais. Et ensuite, au niveau où est-ce que tu peux te mettre avec ta tiny house, eh bien, tu peux te mettre sur un terrain que tu possèdes si, en fait, le PLU de la commune l'accepte. Et il faut que tu fasses attention au fait qu'il faut que tu te mettes sur une zone pastille. Apparemment, ils appellent ça comme ça. Et enfin, si tu veux te mettre sur un terrain moins de 3 mois, dans ce cas-là, tu n'as aucune autorisation à demander, apparemment. Donc voilà.
Ok. Et toi, quel est le plan du coup pour les prochains mois, les prochaines semaines? Bon, pour le mois de novembre et peut-être décembre, je ne te demande pas. C'est le même plan pour tout le monde, a priori. Mais sinon, pour la suite, t'en es où de la planification du projet?
Bah écoute, j'espère commencer à construire la tiny house début d'année prochaine, donc de commander la remorque en décembre, de me la faire livrer en janvier et ensuite de commencer la construction en espérant qu'il n'y ait pas d'autres vagues afin d'éviter les délais dans la construction et dans la livraison des matériaux pour la construction de la tiny. Et ensuite, l'idée, ce serait de partir sur les routes l'été prochain. Voilà, donc 6 mois plus tard.
Et j'ai cru comprendre que pour financer ce projet, tu passais aussi par un crowdfunding sur Ulule.
C'est ça. Oui, parce qu'en fait, la tiny house que je veux construire, c'est vraiment, enfin, je la vois comme ça, je la vois comme un lieu d'échange pédagogique et ouvert à tous. Donc du coup, je veux vraiment que n'importe qui passe par là où la tiny house sera, ben, qu'il puisse venir dans la maison, voir les toilettes sèches, voir tu vois, les panneaux solaires, tu vois, enfin vraiment organiser des visites, parler avec les gens, etc. Si les gens veulent venir faire, je sais pas, lire un livre, parce que la bibliothèque sera ouverte, tu vois, à tout le monde, ben, j'aimerais qu'ils puissent l'emprunter s'ils veulent, le remettre plus tard. Donc voilà, donc bref, la tiny sera vraiment ouverte à tous, vraiment. Et c'est pour ça, du coup, parce que ce projet est vraiment collaboratif, que j'ai fait une campagne sur Ulule, qui a commencé il y a 3 semaines et demie, je crois, et qui se termine, du coup, le mercredi 11 novembre. Et j'ai créé cette campagne-là pour justement récolter le reste des fonds nécessaires pour la construction de ce lieu, quoi. C'est la Tiny House Imagine, comme je l'appelle.
Et tu as prévu de faire le tour pendant combien de temps ?
Alors, je n'ai pas défini de durée particulière. Après, la seule chose que je veux faire, c'est vraiment de ne pas bouger tout le temps non plus. Donc, en fait, je compte vraiment bouger entre avril et septembre en faisant à peu près un mois par région. Et ensuite, au bout de 6 mois, tu vois, bah, de rester 6 mois sédentaire durant l'hiver sur un terrain. Et ensuite, de repartir l'année suivante et d'aller redécouvrir de nouvelles régions en restant pareil, en faisant une région par mois, quoi.
D'accord, mais c'est génial, c'est un super projet. Si tu passes dans le Tarn, ça sera avec plaisir que je viendrai voir la Tiny.
Trop bien.
Par rapport aux gens qui se posent des questions aujourd'hui sur l'engagement, alors pas forcément uniquement sur les tiny, sur le zéro déchet, mais qui veulent devenir acteurs, qui veulent se bouger, tu as des conseils à leur donner, des messages à faire passer ?
Aux personnes qui veulent se lancer ?
Ouais, tout à fait.
Ben, suivez votre intuition. Suivez ce qui vous prend les tripes et croyez en vous, c'est la seule chose que je peux dire, et essayez de trouver votre ikigai, même si je sais que ça peut être difficile pour certains de trouver vraiment ce qui nous passionne, mais au final, c'est tellement beau une fois que tu l'as trouvé. Donc non, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de suivre, oui, c'est ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, tu vois, et ouais, et c'est tout.
Et est-ce que tu aurais des recommandations de lecture ou de films ou autres qui, toi, t'ont particulièrement marqué ?
Au niveau des lectures, ouais, j'ai un livre qui m'avait particulièrement touchée. Enfin, c'est même... Enfin, alors, le livre s'appelle « Pouvoir illimité » de Anthony Robbins. C'est un livre que j'ai lu après être allée à la conférence du même nom à Londres. Et ce coach de vie américain, en fait, t'apprend que toutes tes limites et ce qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux, c'est vraiment que des limites qui sont dans ta tête. Et qu'à partir du moment où tu vois que tout est possible et que tout est illimité et que tu peux accéder à n'importe quelle vie que tu veux, eh ben, que tu peux l'avoir. Donc moi, je sais que ça a été vraiment un gros changement dans ma vie de participer à ce séminaire, de marcher sur le feu et de lire ce livre. Donc si je peux le recommander et que ça change la vie de beaucoup d'autres personnes, eh ben, tant mieux.
Fanny, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je te souhaite bon courage et vraiment, je te dis bon vent et bravo pour le Slow Tiny Tour. Je rappelle une dernière fois qu'il y a une campagne de crowdfunding qui est disponible sur Ulule, que vous avez le lien dans la description. Si jamais vous voulez aussi participer et prendre part au Slow Tiny Tour, Fanny, merci encore et à très bientôt.
Oui, merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, oser,